Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. La piété protestante depuis la Réforme a été méfiante vis-à-vis des ordres monastiques. Pour les réformateurs, les moines étaient des goinfres qui se gavaient sur le dos du peuple. Mais des mouvements piétistes se sont fait jour rapidement, plus ou moins, et ces mouvements demandaient des manifestations de piété autonomes. Alors parmi ceux-ci, eh bien, il y a l'ordre des veilleurs créé en 1923 par le pasteur Wilfred Monod avec l'aide de son fils Théodore. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Christian Garel, membre de ce mouvement. Alors, bonjour Christian.
Bonjour Yolande.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'origine de ce mouvement piétiste, monastique? Comment on peut le définir déjà, ce mouvement?
Alors, tout d'abord, il faudrait que je dise une petite correction. Il me semble qu'il ne s'agit pas d'un ordre, il s'agit d'une fraternité. Donc, la fraternité des veilleurs a été initiée par Wilfred Monod. Donc, on connaît plus particulièrement son fils,
Théodore.
Mais Wilfred était en train de faire ses études donc à la faculté de théologie de Montauban, et il a été effaré de voir à quel point tant de gens qui se destinaient à être pasteurs, méconnaissaient la prière et même pouvaient s'en passer en fin de compte avec les études de théologie qui étaient proposé. Alors peut-être qu'à l'époque, c'était bon, la fin du 19e, peut-être à l'époque, on faisait pasteur, on apprenait à devenir pasteur, un petit peu comme un métier un peu plus commun, puisque c'était, bon, il n'y avait pas la séparation de l'Église et de l'État, le travail était rétribué un peu style fonctionnaire, quoi.
Puis c'était très rationaliste aussi, cette période, alors.
Tout à fait.
Le triomphe de la raison sur l'émotion.
Rationaliste et positiviste.
Voilà,
Progrès, voilà. Ouais. Et donc, effaré de constater cela, dès qu'il a été en paroisse, il a vraiment proposé à ce que, la pratique, l'expression de sa foi, soit aidée par des personnes qui avaient précédé dans l'intelligence de la prière, à savoir effectivement le monachisme et puis tant d'autres, et même bien avant la réforme. Et donc il s'est inspiré, Wilfred, on va dire des orientations de Saint François, mais sans trop le dire, c'était les veilleurs ont été fondés en tant qu'association, on va dire, au début du siècle, 1923.
Oui.
Et donc, il fallait pas trop mélanger les choses catholiques, les choses protestantes. Ça faisait encore quand même ça faisait conflit.
Mais il y avait que la prière finalement qu'ils ont gardé du monachisme. Il y avait pas l'aspect enfermement, si j'ose dire, du couvent.
Alors justement, ce qui est intéressant, Daniel Bourguet qui a pris un petit peu les devants pour être un des prieurs de ce 20e siècle là sur la fraternité des veilleurs, a parlé très rapidement du moine intérieur, monachisme intériorisé.
Ouais.
Il y a un petit opus justement sur ça qu'il a écrit. Et en fin de compte, c'est le moine qui est en nous, si je puis m'exprimer
c'est
comme
le,
ça.
Pardon,
le moine qui est en nous.
Le moine, d'accord.
Qui est recherché. Et pas du tout un moine, enfermé dans une structure matérielle, une cellule, et j'en passe, quoi. Voilà. Et donc là, au contraire, c'est de trouver en soi cette espèce, cet appel de l'intérieur que, pour ma part, je ressens très fort dans mon désir d'expression de ma foi chrétienne.
Alors, il y a la prière, bon, ça on l'a bien compris, mais il y a une dimension mystique aussi dans votre recherche.
Oui. Alors, Enfin, votre, c'est la mienne ou c'est celle des...
Bon,
des
ce que vous voulez, vous définissez.
Et bon, on va partir, peut-être ça va nous éclairer si on part sur un petit peu la règle des veilleurs,
oui.
qui est arrivée donc au début du siècle. Et on, avec on va dire trois moments très importants dans la,
ouais.
à la fois très importants et très simples dans la journée de quelqu'un qui essaye de suivre la pratique de la fraternité des veilleurs, le matin, le midi, ouais. le soir, je médite, je prie, voilà, le matin, mais tellement de personnes font ça, j'ouvre ma Bible, je suis la liste de lecture que peu importe qui a fait le calendrier, il y a un texte vraiment qui me tient à cœur, que je lis, que je médite. À midi, c'est le retour sur quelque chose qui est fondamental, peut-être la première prédication de Jésus,
ou les béatitudes,
ou la révélation des évangiles, ouais. on va dire en concentré, c'est donc la récitation des béatitudes,
oui.
voilà, ou chanter, ou prier silencieusement, peu importe. Enfin, j'y reviendrai parce que ça, sur la pratique, après, elle est...
Sur les béatitudes, je vous interromps, mais sur les béatitudes, effectivement, ça m'a fait penser à Théodore Monod quand il raconte dans le désert qu'il est sur son chameau et qu'il récite ses béatitudes.
Oui.
Et donc,
oui.
Effectivement, après, j'ai fait le lien avec les veilleurs, mais c'est
voilà,
ça, quoi.
Voilà.
C'est en tant que veilleur que...
Mais absolument.
D'accord.
Moi, je peux vous dire que j'ai une vie, bon, comme beaucoup, hein. J'ai eu une vie professionnelle très très remplie avec beaucoup d'heures, enfin la pression, etc. Mais je me retrouvais souvent à réciter les béatitudes, à revenant manger chez moi rapidement à vélo.
Ouais.
Voilà. Et alors là, soudain, tu récites les béatitudes, tu es au milieu de la ville, mais je vous assure, Yolande, qu'il y a le regard croisé, il a plus le même sens du tout.
Le regard croisé
du passant qui passe.
Ouais.
Le regard soudain sur les choses qui vous entourent. Non.
Vous voyez le monde sous un autre angle.
Je pense que d'une façon générale, la prière permet de lire le monde différemment, de l'intérieur,
ouais.
donc de l'extérieur. Réciter les béatitudes, c'est refonder un petit peu son engagement et son émerveillement de se dire, mais alors lui c'était vraiment le Fils de Dieu.
Mais alors il faut les connaître par cœur d'abord, les béatitudes.
Pas forcément, on peut avoir un petit papier, alors là évidemment c'est difficile à faire.
Si on conduit le papier,
voilà.
Mais enfin bon, on peut avoir le papier.
Écoutez, franchement,
oui.
c'est comme une petite chanson. Moi j'ai
ouais.
appris dans mon métier beaucoup beaucoup de petites chansons.
Oui, vous étiez donc dans l'éducation nationale.
oui, j'ai beaucoup enseigné à des petits,
ouais.
des petits de la maternelle jusqu'aux grands en faculté.
D'accord.
Et en université. Et ça s'apprend très très facilement, pour peu qu'on rende un petit peu ludique l'apprentissage. Ou tout simplement qu'on arrête de faire ce qu'on a fait pendant des années, c'est-à-dire de diaboliser, c'est un mauvais jeu de mots, hein, de diaboliser à la fois la répétition et la mémoire.
D'accord.
Voilà. Oui, on le répète et puis on se trompe.
Oui, c'est pas dramatique, je suppose.
Non, mais
que...
non seulement c'est pas dramatique, mais on se trompe, et
oui.
on recommence à zéro.
Oui, oui, d'accord.
Et on
mais
se retrompe, on recommence.
Est-ce que c'est pas une obligation qu'on s'impose le jour où on n'a pas envie de le faire,
oui,
on le fait quand même?
Ah, le jour où j'ai pas, alors si je vous disais le nombre de jours où j'ai pas eu envie, ou pas le temps.
Et alors, est-ce que vous avez fait, vous l'avez pas fait?
Et je l'ai pas fait, mais bien entendu.
Ah bon, d'accord,
mais
surtout, je sais pas, moi.
Mais bien entendu, surtout, gars. Mais par contre,
ouais.
par contre, je pense, il y a des visages qui me viennent et je pense à tous ceux qui l'auront fait pour moi.
Ouais.
Merci à eux.
D'accord. Alors là, bon, on a fait une petite digression, voilà. Alors le soir, donc.
Et le soir, je médite à nouveau la parole que j'ai lue le matin. Enfin, pour ma part,
oui.
c'est ça. En essayant de faire un petit peu le bilan, Ou est-ce que tu étais en accord avec ça?
Ouais.
Ou est-ce que tu étais pas vraiment en accord avec ça? Et je remets ça dans une nouvelle prière. Voilà.
Donc ça, c'est la règle, en fait, des veilleurs.
Alors, pas que. Ça, ce sont les trois moments de la journée.
Oui.
La règle des veilleurs, c'est encore trois points.
D'accord. Donc, c'est toujours très trinitaire, votre...
Comme par hasard.
Comme par hasard.
Et puis, c'est un système mnémotechnique aussi.
Oui.
Qu'est-ce que j'ai oublié aujourd'hui?
Ouais.
Parce que moi, je suis comme ça, je sais pas vous, mais moi, je suis oublieux.
Oui, bon.
Donc, il me faut des petits systèmes
ouais.
comme ça. Et donc trois points, le premier point ce dont on vient de parler, c'est-à-dire
oui.
les trois moments de la journée. Le deuxième point, c'est le vendredi. Alors là, le vendredi, il se passe quelque chose d'un petit peu spécial chez les meilleurs. C'est que le vendredi, eh ben on se recentre sur la croix, mais non pas au sens morbide,
doloriste du terme,
mais au sens de ce que je vous ai dit en début d'émission, c'est-à-dire que mais alors lui, il est vraiment mort sur la croix, il était fils de Dieu, il était Dieu qui est venu sur terre, méditer là-dessus. Et c'est à ce en quoi je crois, et ce dont j'espère que ma vie va pouvoir témoigner, mais en le vivant vraiment. Et ça, si vous voulez, le vendredi, donc c'est le moment où eh bien, beaucoup de veilleurs choisissent soit pour peut-être avoir des moments de prière peut-être un peu plus prolongé, ça c'est la chose la plus facile on va dire, mais le plus souvent c'est décliné en ce sens que le vendredi ce sera le jour où on ira voir la personne qu'on a quand même mise un petit peu de côté pendant la semaine et que dont on sait que lui il aurait besoin que j'aille le voir, c'est à ce moment-là que ça va se passer. Moi j'ai longuement laissé de côté de la correspondance pour le vendredi.
Oui, d'accord.
Sachant que là, il y a un mail, donc un courriel, pardon, ou un courrier important. Non, là, celui-là, tu vas pas le faire ce soir, tu le feras vendredi. Voilà. Ou, lorsque, avec mon épouse Hélène, on a eu à cœur de d'initier à nouveau, lorsque nous sommes venus sur Nîmes, un groupe de partage et prière, avec vraiment un moment d'évangile prié, enfin, et on s'est dit, mais ce serait bien que ce soit le vendredi.
Et ça vous rapproche de l'islam aussi, le vendredi, non? Parce qu'il y avait, il y a l'influence de Théodore Monod. Donc, Théodore Monod, je précise pour nos auditeurs, hein, c'est le grand naturaliste qui a passé sa vie dans le désert. Et donc, tous ceux qui connaissent le désert connaissent Théodore Monod. Et donc, il parle aussi de sa rencontre avec l'islam. Enfin, il est profondément chrétien, il récite les béatitudes. Et en même temps, il a ce rapport avec les gens qui l'entourent dans le désert avec les musulmans.
Écoutez, je ne connais pas beaucoup l'islam. Je connais, j'ai beaucoup d'amis musulmans,
ouais.
mais je connais pas de la théologie. Bon, j'essaie de m'en rapprocher, mais par contre, si c'était ça, j'en serais très heureux.
Bah, voilà. Le vendredi, c'est le jour, c'est le jour sacré. Moi non plus, je ne connais pas beaucoup,
oui.
mais enfin, je sais que le vendredi, c'est le jour, c'est le dimanche des chrétiens, quoi. Le vendredi en islam, c'est là où les magasins sont fermés, etc. Donc, c'est à
voilà,
point.
Le vendredi, il y a des meilleurs, par exemple, qui pratiquent le jeûne.
Ah oui?
S'ils ont vraiment, ils se sentent bien pour le pratiquer un jour, ils le feront plutôt le vendredi.
D'accord.
Mais ce
n'est pas obligatoire.
Mais bien entendu.
Ouais.
Et ça peut être simplement vendredi, ben tiens, il y a un de nous qui a un peu plus une parole à cœur, et bien il a diffusé un petit peu plus. Bon, comme tout le monde, on a des groupes internet, WhatsApp, etc. Il la diffusera. Alors on a une liste de lecture. Hein, qui est donné par la fraternité, donc l'association Fraternité des Meilleurs. On a une liste de lecture du vendredi. On peut le prendre.
On peut le faire ou on peut ne pas le faire. D'accord.
Voilà.
Donc ça, c'est le deuxième point.
Le deuxième point.
Voilà. Alors,
le troisième.
Le troisième.
Alors.
Ben, le dimanche.
Et ben voilà, exactement.
Non, mais je triche là parce que j'ai fait mes recherches. Donc,
alors ça étonne beaucoup d'amis. Mais ouais. Alors, c'est... Et le troisième point, c'est simplement de retrouver les frères et les sœurs dans ma communauté, ma paroisse protestante, puisque bon,
oui.
je suis protestant, et d'être juste à ma place de paroissien lambda.
D'accord.
Voilà, mais d'y être.
Alors là, effectivement, là, vous donnez, en fait, vous devenez, en quelque sorte, si j'ose dire, consommateur. C'est-à-dire que vous allez écouter quelqu'un d'autre prêcher, etc. Ce n'est plus vous qui faites l'action, en fait, d'une certaine
alors
façon.
Alors là, je vais vous étonner. Je pense que, comment dire, du prédicateur et des écoutants, le travail, il est deux en même temps. C'est un petit peu comme, si vous voulez, c'est un petit peu comme une œuvre. Mmh. Souvent, donc j'ai beaucoup travaillé aussi pour les arts et la culture à l'école, mais là, en l'occurrence, avec des artistes, des écrivains qui me disaient, mais en fait, le travail.
C'est le lecteur.
Le travail, qui le fait? Oui, certes, moi je le fais.
Oui.
Mais s'il n'y a pas le travail du lecteur,
bien sûr.
Mon œuvre, elle est vaine et mon œuvre n'existe pas.
D'accord.
De la même façon, s'il n'y a pas à un moment donné, si le plasticien qui fait son installation,
oui, oui, bien sûr.
D'accord, hein.
Oui. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est vous êtes finalement vous devenez là vous le dimanche vous êtes un paroissien lambda en fait.
Oui.
Voilà.
D'une
certaine façon.
J'exagère en disant ça parce que dans la mesure où on fréquente un petit peu plus assidûment une paroisse, mais inévitablement on s'implique quelque part.
Je me doute. Voilà. Tous ceux qui fréquentent des paroisses savent qu'on ne peut pas fréquenter anonymement une paroisse, qu'on est tout de suite partie prenante, on est tout de suite acteur, enfin bon.
Donc oui, on peut, mais par contre, sur la préparation du message, la méditation, l'organisation, effectivement, je me repose beaucoup plus sur l'équipe du conseil de paroisse, la pasteur, puisque nous avons
une pasteur
à la fraternité de Grésan à Nîmes, voilà.
D'accord. Et vous êtes combien alors en France de veilleurs à peu près? Vous avez des statistiques? Vous êtes une association? Vous êtes
oui. Alors ça, c'est bien sûr une association, c'est sûr. Mais alors là,
c'est-à-dire.
Ben c'est-à-dire que à un moment il y a des statuts de
1901 ou 5?
1905.
1905. Vous êtes un mouvement culturel. D'accord.
Oui, puisqu'elle est a posteriori, hein,
1923,
donc il y avait presque une vingtaine d'années.
Oui, bien sûr.
Qui était advenue, donc c'est une association.
D'accord.
Comme beaucoup d'associations, avec un conseil d'administration.
Un conseil d'administration. Etc. Alors, une association nationale.
Oui, alors c'est national, mais nous avons des veilleurs un petit peu partout dans le monde.
Bien sûr. Voilà, dans le monde.
Dans le monde, oui, dans le monde. C'est bon, beaucoup de veilleurs se trouvent en Europe.
Ouais.
Donc les pays frontaliers de la France, Suisse, Belgique, etc., etc. Mais il y a des veilleurs en Amérique, aux USA, au Honduras, Amérique centrale, Amérique du Sud.
Et en France, vous êtes à peu près combien alors, vous savez?
Là, franchement,
je
dirais des bêtises si je vous disais quelque chose.
D'accord. Bon, si les les auditeurs veulent savoir, ben regarderont sur Internet, je suppose.
Ah,
que...
oui, il y a quand même.
Je suppose que vous êtes marqué quelque part.
L'Église protestante unie de France a.
Oui, mais alors vous faites partie de la Fédération protestante de France aussi.
Oui,
j'ai vu. D'accord.
Oui, oui, oui.
D'accord.
Même si chez les veilleurs, il y a des orthodoxes, des catholiques, des protestants, de tous horizons.
D'accord, ce n'est pas un mouvement strictement protestant.
Voilà. C'est initié par des personnes protestantes.
D'accord.
Mais surtout pas exclusivement protestant.
D'accord. Mmh. Alors, on va faire une pause musicale et puis on va peut-être venir plus spécifiquement au contenu du message ou de la pratique. Alors, qu'est-ce que vous nous avez choisi comme musique?
Alors, moi, j'arrive d'un cheminement musical qui m'a fait plutôt découvrir d'abord le gospel.
Mmh.
Donc, j'ai proposé un chant qui est archi connu, qui s'appelle It's Me All Over. Et j'ai chanté ça pas mal de temps. Je l'ai accompagné. Je suis percussionniste, donc j'ai pas mal accompagné ça. Et j'ai proposé parce que si vous voulez, c'est pour moi c'est un rapport à la musique qui est spontané, vivant, lumineux. Et puis énergétique. De temps en temps, on a besoin de ça. Enfin, j'adore le travail d'exégèse, de fourmi, de réflexion démocratique. Enfin, dans l'Église historique, hein, l'Église.
Les PDF.
Voilà, protestante unie actuellement, ou l'Église réformée. Mais j'ai, de temps en temps, il y a mon côté africain qui reprend le dessus.
D'accord. Alors, on écoute cette musique et puis on se retrouve ensuite. On se retrouve avec Christian Garel donc pour parler de cette fraternité des veilleurs qui n'est pas donc un ordre mais qui est une fraternité. Alors fraternité, il y a tout un programme là. Pourquoi ce mot de fraternité? Pourquoi est-ce que le monde manque de fraternité? Est-ce que les églises manquent de fraternité? Pourquoi ce mot?
Ce mot parce que autant la fraternité est bien entendu à vivre de visu, in situ, en action, etc. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'une fraternité invisible. C'est-à-dire que, bon, pas tout à fait, puisqu'on a, on a quand même régulièrement des moments de rencontre, à peu près chaque mois et demi, localement, il y a des veilleurs qui se réunissent autour d'un thème, un conférencier, un partage, etc., dans une des églises locales. Et puis, bon, on a des retraites régulières, une retraite annuelle très importante aussi, sur plusieurs jours, une rencontre nationale aussi qui nous réunit, mais pas tous.
Ouais.
Et ça, c'est pas énorme comme temps de rencontre de visu. Par contre, nous avons beaucoup de temps de rencontre invisibles. Par la prière, nous sommes invités. Alors, moi, ce qui m'aide beaucoup quand même, c'est d'avoir un petit peu rencontré, pu mettre quand même quelques visages sous des noms. Au cours de partage de séminaires, de retraites, etc. Mais à partir de là, c'est souvent, on convoque souvent des frères invisibles.
Mais alors, à ce stade-là de ce que vous dites, je me pose la question, est-ce que Internet a modifié votre façon de vivre la fraternité, puisque vous parlez d'une forme de correspondance mystique, enfin de, et puis cette correspondance, vous pouvez la voir même avec ceux qui sont à l'étranger, grâce à Internet. Ça a modifié, ça a aidé, ça risque
très
pas
peu,
de.
Très peu, ça a modifié.
Ouais.
Je vous parlais d'un petit groupe un petit groupe d'échange WhatsApp, par exemple. Oui, ça l'a modifié comme ça, sur des petits échanges. Et puis, un des responsables du groupe là du Sud, dont je fais partie, de l'Air Sud, ben nous avoir régulièrement par ce petit groupe de parole WhatsApp, nous avoir par exemple l'hommage du vendredi, le texte du vendredi qui a été choisi dans la liste donc par la fraternité des veilleurs, ils nous le renvoient, des petits clins d'œil comme ça. Mais mis à part ça, non, ça n'a pas beaucoup changé.
Hein. Internet n'a pas modifié la fraternité mystique.
Mis à part le fait aussi il y a un petit peu plus de lisibilité.
Par rapport au lien avec l'international, avec
exemple,
les frères.
Mais ce qui se passait, c'est que il y a le courriel quand même très rapidement, mais donc Internet a apporté le courriel, mais auparavant, il y avait le courrier.
Il y avait le courrier.
Tout ça.
Oui, oui.
Et puis les voyages.
Ouais.
Alors Daniel Bourguet, qui a été, lorsqu'il faisait il était doyen à la fac de Montpellier, prof d'Ancien Testament. Donc il a fait un petit peu le constat qu'avait fait Théodore Monod à la fin du 19e siècle. Quoi. Donc il s'est dit, mais en fait, quand même, il faudrait quand même un petit peu présenter une façon de d'avoir une vie de prière ou une vie fraternelle un petit peu en dehors des clous, ou tout simplement avoir une vie de prière toute simple que me connaissent pas mal de
vous trouvez
prières.
Que les églises comme les PUDF manquent de vie de prière?
Eh bien, moi, pour ma part, je crois que je suis comblé, parce qu'on arrive à vivre vraiment des temps de prière très riches et très réguliers dans la paroisse où je suis, mais d'après ce que je comprends de plein d'autres paroisses, ce n'est pas le cas. Hein.
D'accord. Ouais, alors, je vous ai interrompu. Ouais. Là, vous parliez de Daniel Bourguet, donc qui faisait ce constat.
Donc Daniel Bourguet s'est dit, bon, mais je vais essayer de voir comment dynamiser cette vie ou cet apprentissage de la prière. Et puis il tombe justement sur les archives de la Fraternité des Veilleurs, qui étaient tombées un petit peu en désuétude, en sommeil, on va dire.
Il n'y avait plus de mouvement.
C'était dans les années, je dirais, 1990, quelque chose comme
D'accord.
ça.
D'accord.
Et je me suis dit, mais tous les outils sont là. Il y a un tiers ordre, donc la communauté dans l'invisible, etc. qui
tiers ordre, ça veut dire la communauté dans l'invisible.
Mais ça veut dire que c'était pas une communauté religieuse au sens où on prend des engagements religieux, etc. Mais à côté des moines, le tiers ordre, par exemple, a accompagné l'avènement de l'avènement du monachisme, il y a toujours eu des laïcs qui ont continué à vouloir.
D'accord.
Vivre une vie, peut-être une vie de prière un petit peu plus intense, sans rentrer dans les ordres forcément.
Ah d'accord, c'est ça, bien sûr. D'accord.
Il y a un tiers qui est quand même... Qui est pas
alors donc, si je comprends bien, Wilfred avait créé en 1923 le mouvement avec son fils Théodore, et puis ça s'était tombé en...
Voilà, 70 ans après, Daniel Bourbier se dit, mais bon sang, on a tout... C'est tombé en... C'est pas la peine de refaire quelque chose qui existait déjà.
Ouais.
Et donc, il a redynamisé cette fraternité. Et alors, bon, lorsque Wilfred Monod et son fils se sont dit, allez, on y va en 1923, je crois que c'était une douzaine, quelque chose comme ça, vraiment très peu. Bon, là, Daniel exhume un petit peu les archives. Je sais pas, peut-être il devait y avoir, je sais pas, je dis quelques dizaines de personnes, on va dire. Là, sans vous donner de chiffres exacts, c'est sûr que nous sommes plusieurs centaines, ça c'est sûr.
Oui.
C'est sûr. Et donc, il s'est dit, en fait, de par l'université, de par mes diffusions, mes écrits, etc., j'ai accès à pas mal de médias. Voilà, il a commencé comme ça, et du coup, l'association...
Et c'est là que vous êtes rentré, vous
À peu près, puisque on était un petit peu en errance communautaire, on va dire, avec mon épouse. Alors, on pratiquait des petits cultes maison, des moments de prière un petit peu, ou le partage informel avec des chrétiens, quoi, qui étaient dans le coin, le Viganais. Et on cherchait un petit peu, hein, et il y a, c'est un ami, il s'appelait Yvon Thomas, et Yvon, je crois qu'il est retourné en Bretagne maintenant, j'espère qu'il y est encore, et en bonne santé, et il passe chez nous, il faisait ses études de Théo à Montpellier, il faisait les trajets parce qu'il habitait à Aulas, pas loin de chez nous, et il s'arrête chez nous un jour, et il dit, mais j'ai ce qu'il vous faut. Voilà, j'ai eu Daniel Bourguet, mon prof d'Ancien Testament, et il nous a parlé de l'association, de la fraternité des veilleurs. Voilà, donc voilà telle pratique, on se donne une discipline, mais très souple, très libre, un petit peu plus priante, un petit peu plus contemplative. Je crois que c'est ce que vous cherchez.
Et là, vous êtes rentré dedans. Qu'est-ce que ça vous a apporté, concrètement, par rapport à... si vous étiez un paroissien lambda, si une telle chose existe.
Non, on n'était pas du tout paroissien lambda. En fait, on avait du mal à...
Vous n'étiez pas paroissien du tout.
Non.
D'accord.
En fait, on avait du mal à entrer dans l'église telle que, enfin, l'expression de foi telle qu'elle était autour de nous. On y arrivait pas.
Alors que maintenant, avec cette pratique de la fraternité des veilleurs, vous arrivez aller au culte le dimanche.
Tout à fait, parce que en fait même ça va plus loin. La paroisse où on s'est dit, mais voilà, le dimanche, allez, on y va, et on y va avec notre sensibilité, mais au contraire ça fait plutôt tache d'encre autour de nous, c'est-à-dire que on a tout à fait partagé le fait qu'on était un petit peu, on se posait des questions, on était en errance, non pas sur notre foi en Jésus-Christ, mais sur la forme.
Ouais.
On ne savait pas comment trouver une communauté qui fasse du sens pour nous dans sa forme. Et alors, mais quelle est votre recherche, nous ont dit les amis, les frères, sœurs. Eh ben voilà, nous on aimerait quelque chose d'un petit peu plus, peut-être un peu plus silencieux. La silence a une très très grande place l'expression de foi des veilleurs. Plus silencieux, plus contemplatif. Prier en se disant, ben, on se laisse prier, c'est pas nous qui prions. Voilà, quand je lis ma Bible, je la pose, et puis s'il vient que du silence apaisé ou pas, c'est ça. S'il vient une prière parlée, c'est ça. S'il vient un chant, c'est ça. S'il ne vient rien, il ne vient rien.
C'est intéressant, parce que j'ai fait quelques émissions sur la prière, et toujours le problème, c'est les gens qui me disent, ah, mais je culpabilise parce que j'arrive pas à prier.
Oui.
Et donc, vous proposez quelque chose de complètement différent, c'est se laisser prier. Oui. Et que si ça vient pas, et ben, c'est quand même une prière, si je comprends bien.
Mais oui, vous savez, lorsque des amis me disent ça, je leur pose la question, mais est-ce que tu as eu l'élan, l'envie de prier? Mais oui, bien sûr, mais je n'y arrive pas. Mais tu as eu l'élan de prier. Pour moi, c'est une prière.
Oui, oui, l'élan, c'est la prière, déjà.
Pour moi, c'est déjà une prière. C'est déjà une prière, mais une prière, qu'est-ce que c'est? C'est une prière qui préexiste, qui nous préexiste. C'est simplement l'ouverture à une prière qui nous préexiste. C'est-à-dire que quand j'ai l'élan de prière, je me laisse traverser par un désir qui me dépasse, qui vient de très, très loin. Et ça, c'est déjà un hommage rendu, évidemment, à notre Dieu, en Jésus-Christ. Mais c'est un hommage rendu à la communauté des saints, qui est tous ceux paroissiens lambda, comme on a dit tout à l'heure, un petit peu en exagérant, qui nous ont précédés et qui nous suivront.
Alors la communion des saints, c'est dans le sens de Jacques Ellul, c'est-à-dire que qu'il définit, oui. C'est-à-dire mis à part et non pas personnage
bien
presque
sûr.
Parfait.
Oui, merci de me le faire préciser. Oui, oui, bien sûr.
Oui, parce que ça peut amener à ambiguïté avec la notion avec la notion catholique.
Oui, oui.
En aucun cas, vous ne revendiquez une sainteté,
voilà,
modèle moral, etc.
Non, ça serait, pour moi, ça serait même pas tenable. Je serais déjà défroqué. Hein.
D'accord. Et alors, dans votre communauté, comment vous avez été reçu? Comment vous êtes reçu? Est-ce que on s'inspire de ce que vous vivez? On vous prend pas pour un doux mystique?
Non. Ben, vous savez, la communauté où je suis, c'est une communauté qui draine beaucoup de couches sociales, de la plus populaire à la plus, enfin bon, c'est plutôt populaire quand même.
C'est Nîmes,
c'est le quartier Chemin Bas d'Avignon, donc ouais. Voilà, avec une paroisse qui a vraiment à cœur d'accueillir les migrants, les jeunes qui arrivent un petit peu déboussolés, sans papier, etc. Donc de les accompagner au moins là-dedans. Donc on est plutôt les mains dans le cambouis dans ce sens-là. Mais ce que je peux dire, c'est que tout le monde sait ce qui se pratique chez Christian et Hélène. Donc Hélène, c'est le prénom de mon épouse.
Donc chez vous?
Chez nous, beaucoup, parce que bon, quand il fait très froid, bon, ben on essaie de faire ça pour la planète et pour les économies. Ben on se réunit, on fait une réunion à la maison, quoi.
Ouais.
Et puis au beau jour, voilà, on le fait à la fraternité, au temple. Eh bien, ce qui se passe là, dans cette prière un petit peu plus, on va dire, un peu plus silencieuse, un petit peu plus polymorphe, hein, de toutes formes possibles, y compris le silence, pas forcément voulu comme un silence habité, mais un silence de rien, mais ça veut dire que c'est l'autre qui a pris le relais à côté de toi, ou que simplement tu as une présence, c'est rien de plus. Ça, c'est quelque chose, par contre, qui est pas partagé par toute la, partagé en action, on va dire, par toute la communauté, toute la paroisse de la fraternité, mais qui est connu de toute la paroisse de la fraternité, comme les d'autres amis se réunissent pour faire une marche en toute fraternité, une marche.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, ce que je retiens aussi, c'est que le fait d'être dans un mouvement de prière piétiste, un peu mystique, il faut bien le dire, ça ne vous empêche pas d'être dans un engagement social chrétien. C'est puisque vous parlez effectivement.
Ben nos auditeurs connaîtront bien sûrement le parcours de Wilfred Monod, mais
oui.
Théodore,
Théodore.
Christianisme social, enfin,
voilà.
Je veux dire, c'était quand même. Ils ont essuyé les guerres mondiales. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que de la guerre de 14 après, beaucoup de chrétiens se sont posés, après les massacres, se sont posés des questions et se sont engagés de cette manière-là, socialement. Oui, c'est vrai que je serais très honoré qu'on puisse penser que je m'inspire de.
Eh bien, c'est ce qu'on va penser, que effectivement les veilleurs donc ont un engagement social chrétien en plus d'une piété très forte, un peu différente de celle que dont elle s'inspire du monachisme. Voilà, ben c'est là-dessus qu'on va quitter nos auditeurs. Je remercie Christian.
Merci,
et bien puis bien. Je remercie nos auditeurs. Et je leur donne rendez-vous à la semaine prochaine, tout en leur disant qu'ils peuvent envoyez leur réaction à un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org, même si nous sommes dans Thème et Anathème, c'est la même adresse mail. Au revoir.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.